Bonjour, moi c'est Martin Guez, bienvenue dans Podcan, le podcast de la CAN sur RFI. Votre guide, votre petit manuel pour tout savoir sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qui on suivra évidemment sur la radio du monde. Dans ce deuxième épisode, on va décrypter le groupe B en compagnie d'Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Et en compagnie de Patrick Julliard. Bonjour Patrick.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, direction Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, dans la tanière des lions sénégalais. Une tanière où l'on retrouve aussi des éléphants, ceux du Sili National, des guerriers du Zimbabwe, tous réunis autour du feu, le feu des flammes du Malawi. Pour briser la glace, messieurs, cette grande question, est-ce que enfin est venue l'heure du Sénégal, toujours placé, jamais vainqueur? Les Lions peuvent-ils enfin gagner la CAN? Est-ce que ça vous paraît possible?
Oui, ça me paraît largement possible. Pourquoi? Parce que les Lions de la Teranga sont les finalistes sortants. Rappelons qu'ils perdent en 2019 sur un but, disons un petit peu heureux de l'Algérie. Alors sur un match extrêmement frustrant pour eux, mais ils sont passés tout près. Ils sont passés tout près. L'équipe ne s'est pas vraiment affaiblie, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis cette date. Elle a même été renforcée par l'intégration de joueurs binationaux au poste où elle était la plus faible, notamment sur les côtés défensifs. Ça fait quand même des plus à un bilan qui est déjà très positif. En tout cas, sur le plan des résultats, puisque on sait qu'Aliou Cissé est sous forte pression sur le plan du contenu, et parfois à juste raison, mais sur le plan des résultats et de ce qu'on appelle l'habitude de gagner, donc qui est une condition nécessaire à la réussite sur un tournoi, le Sénégal répond présent. Donc oui, le Sénégal peut et doit y croire.
Hugo Moissonnier, le Sénégal, l'un des grands favoris de toute évidence de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations.
En tout cas, en termes de qualité d'effectif, qualité intrinsèque des joueurs, composent l'effectif, il me semble que les Lions de la Teranga n'ont pas vraiment de rivaux dans cette CAN. Vous avez une colonne vertébrale, une ossature qui débute par Edouard Mendy, j'ose le dire, probablement le meilleur gardien de but au monde. À l'heure actuelle, vous avez Sadio Mané de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Entre les deux, vous avez Kalidou Koulibaly en défense, Idrissa Ganagay au milieu de terrain, qui a pris une nouvelle dimension par rapport à la CAN 2019. Notamment, il avait déjà été énorme. Là, maintenant, il est très important pour le Paris Saint-Germain. Donc, vous avez vraiment une colonne vertébrale, une ossature très impressionnante, avec autour des joueurs qui sont pas maladroits non plus. Vous avez un staff technique et notamment un sélectionneur en place depuis de nombreuses années. Vous avez, avec cette équipe, je parle au sens large, c'est-à-dire plus joueurs, cadres, des résultats probants sur lesquels vous pouvez vous appuyer, une qualification pour la Coupe du Monde de 2018, deuxième participation pour les Lions de la Teranga, et puis vous avez une finale de CAN tout de même. Et quelque part, ce qui est intéressant avec ce passif, c'est que ce sont deux échecs qu'on peut imaginer être pleins d'enseignements pour les Lions de la Teranga. Il a manqué toujours un petit quelque chose pour franchir le premier tour de la Coupe du Monde. Ça s'était joué au nombre de cartons jaunes reçus. Et puis, pour remporter la CAN en 2019, vous perdez, Patrick l'a dit, sur un but très malchanceux. Après, on peut aussi me rétorquer que ces échecs, ils avaient peut-être déjà montré la limite du système Cissé, puisque le Sénégal avait peut-être paru trop peu inspiré dans le jeu, trop timoré. Il manquait un petit quelque chose, et peut-être que à force de ne pas avoir bousculé les habitudes, et notamment de ne pas avoir bousculé le coach en place, peut-être que le Sénégal va stagner en quelque part dans ses travers qui l'empêchent de franchir le palier décisif.
Les fameuses défaites encourageantes, mais rageantes tout de même pour le Sénégal. Il y en a un qui a déjà perdu une finale de CAN, il y en a un qui a déjà joué une Coupe du Monde, il était même allé jusqu'en quart de finale en 2002, il s'est prêté au jeu du répondeur Podcan, il nous a laissé un petit message.
Bonjour RFI, de la part de El Hadji Diouf. Est-ce que cette CAN c'est la bonne? J'espère que ce sera la bonne. Le plus important, c'est qu'on a une équipe, on a des joueurs, et on a aujourd'hui un staff, que ce soit technique ou administratif, très concerné. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tout pour gagner cette CAN-là. Maintenant, vous savez bien que gagner, c'est une organisation et une mentalité. Et il y a bien quelque chose qui est né. Et avec cette équipe du Sénégal-là, il y a un bon groupe déjà homogène, avec des joueurs concentrés, concernés. On a le talent pour. C'est aux joueurs de faire de sorte que ce soit la bonne. N'attends pas que quelque chose se passe, c'est à toi de faire de sorte que quelque chose se passe. Donc, c'est le message que j'ai à donner à mes petits frères, et j'espère qu'ils vont bien l'entendre et les mettre sur le terrain.
Patrick Julliard, est-ce que c'est la fin de la loose pour le Sénégal, pas seulement l'équipe 1, on pense aussi aux équipes de jeunes, aux équipes de beach soccer, toujours placées, vraiment jamais vainqueurs. C'est assez incroyable le nombre de finales disputées, le potentiel des équipes dans toutes les catégories d'âge, dans toutes les catégories de football, mais au final, cette faillite mentale un petit peu permanente pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui produit énormément de bons joueurs, mais est-ce que voilà, il manque pas quelque chose mentalement pour avoir cet esprit commando et enfin remporter un très grand succès?
Oui, c'est vrai que les journalistes, les observateurs d'autres pays qui ont déjà gagné la CAN le font souvent remarquer. Le Sénégal n'a pas encore cassé ce plafond de verre qui sépare les potentialités des grandes réussites, des victoires. Et le palmarès est vierge et ça peut peser au moment des matchs décisifs. Si le Sénégal est à nouveau dans le dernier carré, ça peut trotter dans les têtes. Les joueurs peuvent penser au poids supplémentaire que représenterait un nouvel échec, alors que ceux d'autres pays davantage habitués à gagner n'auront pas ce poids du signe indien, comme on dit, à briser. Et ça, je pense que ça peut trotter dans la tête. Et ce que dit Aladji Diouf est très intéressant parce que moi, je vois dans ses propos un petit peu l'appel d'un artiste au dépassement de fonction. C'est-à-dire, oui, Sadio Mané est un très grand joueur. Oui, Sadio Mané apporte énormément, mais peut-être que parfois, il faut qu'il ait le petit degré d'inspiration, le petit supplément d'âme en plus, la petite pointe de folie en plus qui fait qu'on peut faire basculer un match dans l'irrationnel sur une inspiration géniale, comme a pu le faire un Riyad Mahrez avec l'Algérie. Lui, il ne l'a pas encore vraiment fait sur un très gros match avec le Sénégal, donc peut-être c'est maintenant.
Comme a pu le faire un certain Eladji Diouf contre la France en
2002.
Bien sûr
qu'il fait allusion à lui-même.
On a aussi des jeunes auditeurs qui n'étaient pas forcément nés ou trop petits pour avoir vu ce match de Coupe du Monde, match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002, France-Sénégal, la victoire du Sénégal. Et c'est vraiment une action incroyable d'Eladji Diouf qui permet ce but du regretté Papa Bouba Diop. Et effectivement, on a l'impression que on est dans le meilleur conseil de grand frère qui soit, puisque il est encourageant, il est pas écrasant. Eladji Diouf dans sa manière de parler de cette nouvelle génération qui arrive, il est plutôt bienveillant et il a envie de passer le flambeau. Juste un petit mot sur les coulisses de cette interview, parce que Eladji Diouf, on a la chance de pouvoir souvent converser avec lui du côté de RFI. Je lui avais posé la question de savoir s'il y avait une malédiction quelque part du Sénégal, avec notamment les finales perdues ou ce fait d'échouer sur très près du but à chaque fois. Il m'avait dit non, c'est pas une histoire de malédiction, moi je suis footballeur, c'est une histoire de sport et c'est une histoire d'acteurs, c'est une histoire de joueurs effectivement qui doivent prendre leurs responsabilités. On a parlé de la qualité intrinsèque de l'effectif et c'est des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Et en tête de ces joueurs, Martin Guez, évidemment, comme l'a dit Patrick, un certain Sadio Mané.
Certains Sadio Mané, justement, Eladji Diouf, décidément bavard dans cet épisode de
un ami de RFI, qu'on vous dit.
Un ami de RFI qui nous a laissé quelques petits conseils à donner d'ici à la CAN à Sadio Mané.
Vous me demandez est-ce que Sadio Mané va réaliser une grande CAN selon moi. Moi, je dirais qu'il l'a déjà réalisé. La dernière CAN, il a été énorme. Maintenant, vous savez bien que c'est un joueur expérimenté. C'est à lui de montrer à tout le monde que c'est le meilleur joueur d'Afrique. Il a le talent, il a la capacité et il a les joueurs autour qui peuvent le rendre encore meilleur. Il est peut-être un peu au-dessus, mais je crois qu'il a besoin de ses copains pour être au top de sa forme. Et je sais que jouer à côté d'un Idrissa Ganagay, à côté d'un Koulibaly, à côté de tous nos joueurs, Ismaël Essar, tous nos joueurs qu'on a aujourd'hui, Edouard Mendy, tous nos joueurs aujourd'hui, chacun doit hausser son niveau de jeu pour gagner la Coupe d'Afrique.
Sadio Mané et ses copains qui vont démarrer contre le Zimbabwe dans ce groupe qui se dispute donc à Bafoussam dans l'Ouest.
Exactement, petit mot sur le calendrier, donc Sénégal-Zimbabwe, Guinée contre le Malawi, voilà le programme de la première journée. Sénégal-Guinée, la grande affiche de ce groupe B, ce sera pour la deuxième journée. Malawi-Zimbabwe, la petite affiche si on veut être un petit peu piquant, néanmoins ça aura son intérêt, on va en parler dans quelques instants. Zimbabwe Guinée pour finir et Malawi Sénégal, voilà pour le dénouement de cette poule B avec, c'est vrai, sur le papier on se dit quand même peu d'opposition très crédible si ce n'est la Guinée pour le Sénégal. Et on a vu en qualification que quand le Sénégal affrontait des adversaires à sa hauteur au sens des adversaires prenables, si je puis dire. Ça se passait plutôt bien, qualification plutôt facile hein, devant Guinée-Bissau, Congo, Brazzaville, Eswatini pour la CAN, rien d'extraordinaire. Et puis les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est allé très vite devant Togo, Namibie, Congo, Brazzaville, là encore une opposition modeste.
Je trouve quand même qu'il y a un progrès dans le contenu, c'est-à-dire que effectivement sur le plan des résultats secs, le Sénégal a tout balayé dans son groupe, mais je me rappelle d'un match, notamment contre l'Eswatini, où le Sénégal a eu un mal fou à finalement l'emporter. Contre le Congo, c'était très poussif aussi, alors que l'adversaire, bon, à part sa bonne volonté, tout de même était inférieur, hein, sans faire injure aux Congolais.
Oui, c'était
hein,
plutôt déséquilibré.
Voilà. Mais le Sénégal a eu du mal contre des blocs bas, a eu du mal à faire sauter les verrous. Et je trouve que lors des éliminatoires Coupe du Monde, donc contre le Togo, la Namibie, alors c'était pas parfait, mais on a vu du mieux quand même. Le Sénégal s'est plus vite mis à l'abri quand il dominait. Donc c'est plutôt sur la bonne voie, même si je trouve que c'est encore une équipe qui, par rapport à son potentiel et la qualité de son effectif, manque parfois un petit peu de maîtrise dans les temps forts et les temps faibles. Elle pourrait être mieux gérer ces différentes phases du match, mais en face, je pense qu'elle est en progrès.
Bonjour RFI, mon nom c'est Cédric Ewaï. Je vous parle de Lomé au Togo. La sélection que je supporte pour cette CAN, c'est le Sénégal à cause de Sadio Mané. Merci.
Bonsoir la famille, bonsoir RFI. Je m'appelle Faton Rodriga. Je suis votre émission depuis Cotonou, Bénin. Mon équipe pour la CAN, c'est la Sénégal. J'aimerais que la Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup et bonne émission.
Messieurs, le principal adversaire du Sénégal dans ce groupe, je crois qu'on peut le dire sans trop de crainte, ça va être la Guinée. Une Guinée, en revanche, un petit peu décevante ces derniers temps, qui présente un joli visage sur le papier, beaucoup de bons joueurs, un milieu à faire pâlir d'envie beaucoup d'équipes africaines, mais ça a été pas facile pour se qualifier. Ils passent derrière le Mali et ils viennent de vivre des qualifications Coupe du Monde très compliquées. Patrick Julliard, ils arrivent dans une drôle de forme, les éléphants du Sili.
Ça a été compliqué. Alors ils ont subi aussi des événements dont ils ne sont malheureusement pas responsables.
On avec rappelle un coup d'État au moment de la réception du Maroc.
Qui comptait lors de la première session du mois de septembre. Un match repoussé en octobre au Maroc, puisque le terrain de Conakry était suspendu, donc ça les a un petit peu plombés d'entrée.
Et perdu
4-1. Et ensuite, malheureusement, la Guinée n'a pas pu réenclencher une dynamique. Elle n'a gagné aucun de ses 6 matchs. Et surtout, elle a subi aussi le remplacement de Didier Six, le sélectionneur qui était malade, donc qui aujourd'hui va mieux, mais qui a dû être remplacé par Kaba Diawara, qui a essayé d'un petit peu susciter une certaine union, de resserrer les rangs, mais je pense qu'il n'a pas eu assez de temps pour instituer une dynamique nouvelle. On ne sait pas vraiment avec certitude qui dirigera cette équipe pendant la CAN. Donc ils sont dans le flou, la Guinée, mais je suis d'accord avec vous, sur le plan de l'effectif, c'est la deuxième meilleure équipe de ce groupe, sans discussion possible, mais entre l'effectif et ce qu'une équipe produit collectivement, parfois il y a un monde.
Hugo Bassonnet, la Guinée qui sera menée par un certain Naby Keïta au poste de capitaine au milieu de terrain, le joueur phare de Liverpool, le joueur phare de cette équipe. Un ancien capitaine a lui laissé un petit message à Podcan.
Exactement, et qui était sur le terrain avec Naby Keïta il n'y a pas si longtemps que cela, c'est-à-dire en 2019 sur les pelouses égyptiennes. Ibrahima Traoré était le capitaine du Sili, il a disputé plusieurs CAN avec cette équipe nationale. Il est connu, notre nouveau consultant dans Radio Foot International, pour ne pas mâcher ses mots, Ibrahima Traoré. Vous savez qu'on fait intervenir pas mal d'acteurs passés et présents dans Podcan du football africain. La plupart sont plutôt encourageants envers leurs équipes. Ibrahima Traoré, lui, il est plutôt critique envers ce Sili national. Il sait ce que c'est d'avoir de la qualité, mais de ne pas en faire grand-chose.
Salut, c'est Ibrahima Traoré, ancien capitaine du Sili national. Alors déjà, l'équipe nationale du Sili national, elle m'inquiète un peu. Je pense qu'il y a un gros dans le groupe avec le Sénégal, deux équipes qui sont plus ou moins à la portée du Sili national, mais en ayant vu les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, on se rend compte que la Guinée n'a pas réussi à battre la Guinée-Bissau ni le Soudan. Dans le jeu, ça a été un peu pauvre. Après, je pense que la formule permettra à la Guinée aussi d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que même les troisièmes se qualifient et je pense que la deuxième place est déjà accessible. Faudra resserrer l'écart. Après, d'où on peut être optimiste, c'est qu'il y a quand même du talent, il y a quand même de la qualité, il y a des joueurs qui sont habitués à jouer ce genre de compétition. J'espère qu'il y aura un bon état d'esprit, un bon état de groupe et que ça prendra le dessus sur les difficultés sportives que le pays rencontre en ce moment.
Les avertissements bienvenus d'Ibrahima Traoré, Hugo Mossonnier, lui, c'est ce que c'est de rater une Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, parce qu'en 2019, l'effectif de la Guinée, il était intéressant, encore une fois, sur le papier. J'ai eu l'occasion de les suivre du côté d'Alexandrie, en Égypte. On était dans le même hôtel qu'eux, les Guinéens, un hôtel qui n'était pas forcément propice à la sérénité, à la tranquillité. C'était un peu une usine à touristes, pour le dire clairement. Un sélectionneur, Paul Put, controversé, le mot est... faible, avec quelques casseroles, des décisions étranges du point de vue de binationaux intégrés un peu
à la va-vite
dans l'équipe, une pression autour d'un Naby Keïta qui à ce moment-là arrive blessé. Bref, Ibrahima Traoré, à ce moment-là, il ne cachait pas un petit peu son énervement par rapport à la manière dont les choses étaient gérées. Énervement, le mot est peut-être un peu fort, mais il sait ce que c'est de mal gérer un bon effectif. Et la Guinée, malgré une bonne équipe, avait fait match nul contre Madagascar. Ils perdent contre le Nigeria et ils font une victoire contre le Burundi. Bref, c'était pas brillant. Et puis derrière, quand arrive un véritable test, l'Algérie, là, ça fait pas un pli 3-0. C'était un échec, cette CAN 2019 pour le Sili National.
Oui, c'était un échec et effectivement, le manque de préparation et d'organisation, trop d'interférences autour de l'équipe, des gens de la Fédé, du ministère qui peuvent venir mettre leur nez dans les affaires. Rien n'était fait pour la concentration de ces joueurs et effectivement, ça ne peut pas payer dans ces circonstances-là, ça ne peut pas marcher.
Patrick Julliard, Ibrahima Traoré n'est plus là. Il y a du beau monde quand même dans cette équipe de Guinée, Madi Camara, Naby Keïta.
Agibou Camara aussi, qui émerge
les deux,
comme un jeune talent.
Les deux joueurs de l'Olympiakos.
Absolument.
On a aussi Madou Diawara, on a et surtout une révélation en attaque, Mohamed Bayo. Joueur de Clermont en France, c'est assez récent sa sélection.
C'est un binational qui est arrivé dans l'équipe ces derniers mois et qui s'est très vite intégré, qui satisfait totalement les différents staffs qui se sont succédés à la tête de l'équipe. Donc oui, c'est un joueur très intéressant, très bon finisseur, mais qui peut aussi servir de point d'appui, qui sait combiner également. Pas maladroit avec ses pieds
à la Guinée,
pour un joueur de grande taille. Donc un attaquant assez complet et ouais, prometteur. Enfin, ça, de ce point de vue-là, c'est une très belle réussite d'intégration dans l'équipe. Ça n'a pas toujours été le cas pour les binationaux récemment appelés dans cette équipe, mais là, ça fonctionne bien, effectivement. Donc ça, c'est plutôt un motif d'espoir pour eux. Après, il manquera, comme certains de ses partenaires, d'expérience dans un grand tournoi. Puis c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui ont été intégrés lors des deux dernières années. Donc, il faudra qu'il s'adapte vite aux exigences d'une CAN.
Messieurs, voilà pour le derby d'Afrique de l'Ouest, Conakry contre Dakar. On part au sud, l'Afrique australe, Lilongwe contre Harare. On connaît un petit peu moins ces deux équipes. Laquelle vous inspire le plus, le Malawi, le Zimbabwe, lequel vous voyez peut-être se détacher pour finir derrière, peut-être finir meilleur troisième ou au moins finir troisième de cette poule?
Sans hésitation, le Zimbabwe. Le Zimbabwe d'abord, parce que c'est sa troisième participation d'affilée, donc ça dit quelque chose d'une certaine régularité et d'une certaine qualité de cette équipe. C'est une équipe qui est sortie deuxième de la poule de l'Algérie, donc c'est... Mais alors, évidemment...
Mais en étant devant la Zambie.
En étant devant la Zambie, ce qui n'est pas rien, même si la Zambie brille plus par ses attaquants que par ses défenseurs.
Mais néanmoins, on peut... ça montre un petit peu le niveau qu'a pu prendre le Zimbabwe en étant peut-être passé devant dans la région.
En tout cas,
dans la
régularité,
dans ce qu'on a de l'Afrique,
ça ne fait aucun doute. Et on se rappelle d'un excellent match réussi à domicile contre l'Algérie, où ils ont fait contraint les champions d'Afrique au match nul, de partout, avec un très beau match où ils ne se sont pas contentés de les attendre et de les contrer, mais où ils ont essayé de jouer. Ils ont partiellement très bien réussi à ça. Alors, en revanche, le point noir pour cette équipe, c'est qu'elle est dans une phase d'instabilité. Elle a raté ses qualifications pour la Coupe du Monde. Alors,
dans un groupe
difficile où il y avait Ghana, Afrique du Sud et Éthiopie. Bon, ce qui est, en soi, terminer quatrième de ce groupe-là n'est pas une catastrophe, mais il y a eu des matchs ratés, clairement, notamment contre l'Éthiopie. Et puis, beaucoup d'instabilité en coulisses. Le sélectionneur croate Zdravko Logaruzic, qui avait qualifié l'équipe pour la CAN, a été remercié.
parce que insuffisance de résultats, seulement 2 victoires lors des 10 derniers matchs de son mandat au moment de son licenciement. Donc ça, aux yeux de certains dirigeants du pays, c'était trop peu, alors que selon moi, il faisait plutôt du bon travail. On l'a remplacé par un sélectionneur local, Vincent Mapezza. Et on voit que, au mois de novembre, le ministère des Sports a dissous la fédération pour des motifs extrasportifs, accusation de harcèlement notamment. Et le Zimbabwe se retrouve dans une situation assez précaire. En plus, la star de l'équipe, Rama Biliat, a annoncé...
Joueur
des Kaiser Chiefs, ancien vainqueur de la Ligue des Champions africaines avec les Mamelodi Sundowns, enfin un joueur de grande qualité, meneur de jeu, milieu offensif, a annoncé sa retraite internationale à 30 ans. Donc tout ça, ça fait beaucoup pour une seule équipe où les talents ne sont pas légion, même s'il y a de la qualité tout de même, mais... Ça fait beaucoup. Voilà.
Je vois que le guerrier Tonton Patrick a bien bossé son Zimbabwe.
Mais vous avez une adversité face
un
à
autre
ça.
Tonton. Un autre tonton nous a...
Je m'incline.
Nous a écrit,
d'avance.
On a évidemment appelé Tonton Francky, notre compagnon de route sur Podcast. Franck Simon, Simon Afrique m'était compté. Je vous pique vos jeux de mots. Hugo Moissonnier connaît bien le pays, connaît bien l'Afrique australe. Il nous éclaire de ses lumières sur le Zimbabwe.
C'est du troisième chapeau. Je pense que c'est quand même plus fort. Le Zimbabwe est plus fort que le Malawi. Mais le Zimbabwe est vieillissant. Il n'est pas certain. Puis en plus, il n'est même pas certain qu'on y retrouve tous ceux qu'on connaît déjà. Les Marshall Munetsi, Tino Kadewere de l'Olympique Lyonnais, l'ancien Kama Biliat, par exemple, Kuda Mahachi, qui est aussi un gars qu'on a vu au Shan, qui avait brillé il y a quelques années, Marvelous Nakamba, qu'on a vu régulièrement en Ligue des Champions en Europe. Ça suffit pas, en fait, d'avoir des gars comme ça, quoi. Parce qu'ils vieillissent, parce que derrière, est-ce que la génération qui les accompagne va justement être à la hauteur? Moi, j'oublie pas non plus que c'est une équipe qui a perturbé l'Algérie, par exemple, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 fois. Donc, je les crois, eux aussi, imprévisibles. Je pense qu'ils savent se motiver. C'est une équipe avec un gros mental. C'est une équipe qui peut être accrocheuse. Mais attention, c'est une équipe qui peut plonger, à un moment donné, quoi.
Marvelous, Franck Simon qui nous parle du Zimbabwe, ça vous inspire, Hugo Moissonnier?
Oui, juste un petit repère historique pour vous dire que ça vaut ce que ça vaut, mais le Zimbabwe vit en termes de participation à la CAN la meilleure période de son histoire, hein, 3 participations de rang. Il n'avait jamais réussi un tel exploit, entre guillemets. Il était resté sur 2 participations de rang, donc jusqu'à la CAN de 2019, mais également au milieu des années 2000, hein, peut-être le moment où vraiment cette sélection a émergé au plus haut niveau. Les CAN 2004 et 2006 avaient vu la participation du Zimbabwe. À l'époque, on était quand même à 16 équipes par édition.
Le chiffre 3 aussi pour rallumer la flamme du Malawi, 3e participation de ce petit pays après 1984 et 2010. Patrick Julliard, on ne connaît pas vraiment bien, on n'a pas beaucoup de repères, on va dire, sur cette équipe d'Afrique australe. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe des Flames?
Je pense que c'est un peu un des invités surprises de cette CAN. C'est une équipe qui est passée par un trou de souris pour se qualifier. On ne l'attendait pas vraiment. Et
derrière le Burkina Faso, mais devant l'Ouganda.
Devant l'Ouganda, qui
et
était
devant le Soudan du Sud,
plutôt une puissance émergente et qui n'a pas réussi à faire ce qu'a fait le Malawi, c'est-à-dire garder en régularité dans les participations. C'est une équipe qui a plongé et le Malawi a su en profiter. Mais je pense qu'il profite de la défaillance de l'Ouganda. Malheureusement, plus que de leur qualité intrinsèque à eux, c'est une équipe... Si vous me demandez de citer un joueur, je vais vous citer Chester, qui est un ailier qui a un bon sens du dribble, qui peut être spectaculaire. Au-delà de lui, je trouve que c'est une équipe plutôt qui vaut par son collectif et ses vertus, notamment à domicile, mais c'est plutôt limité, le Malawi. Je ne les vois clairement pas passer le premier tour dans cette poule, sur ce que j'ai vu dans... quand je les ai vus jouer récemment. Maintenant, ils ont une expérience en phase finale où ils avaient créé une sensation. C'était en 2010. Ils avaient battu, lors de la première journée de cette CAN, à la surprise générale, l'Algérie, qualifiée alors pour la Coupe du Monde, 3-0. Mais c'était un match qui se jouait en début d'après-midi sous une forte canicule. Donc, je ne suis pas certain qu'on aura ces conditions-là au Cameroun
en janvier prochain.
Hugo Moissonnier, ils sortent aussi d'éliminatoires Coupe du Monde, plutôt difficile, voire très difficile, même si le groupe était difficile, voire très difficile.
Oui, effectivement, on peut même parler un peu de cataclysme, mais on peut effectivement relativiser en regardant l'adversité, puisqu'ils ont terminé dernier de leur poule de qualification pour la Coupe du Monde, donc pas de barrage pour le Malawi. Il faut dire que devant eux, il y avait le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique, donc c'est peut-être là que se situe la contre-performance de ne pas avoir dominé le Mozambique.
Pour avoir vu un seul match de cette équipe contre la Côte d'Ivoire, ils les avaient plutôt embêtés, voire très embêtés jusqu'en fin de rencontre, s'inclinant 3-0, mais deux buts vraiment en toute fin de rencontre, et un bijou de Jérémy Boga qui avait mis à mal les espoirs du Malawi, mais il s'était bien défendu sur le Malawi. On va peut-être avoir besoin des lumières de notre ami Franck Simon.
Plus que jamais.
Dans Pas de Calme. Voilà, qui va nous expliquer un petit peu à quoi s'attendre avec cette équipe.
Il ne faut peut-être pas s'attendre à grand-chose de la part de cette équipe, tout simplement parce que elle a pas de. C'est une équipe sans star, hein, c'est une équipe sans vedette. C'est une équipe avec des jeunes joueurs, c'est une équipe avec un sélectionneur local, national, Mickey Moissé. C'est une équipe qui n'a pas performé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Même si elle a quand même pas mal embêté, pour pas dire autre chose, la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était à Cotonou d'ailleurs ce match, 2-1. C'est une équipe, j'ai envie de ressortir, je les ai notés d'ailleurs, j'ai envie de ressortir deux noms, c'est Ruda Mouyaba qui joue en Afrique du Sud à Polokwane en D2, qui est le buteur de cette équipe, et Richard Mboulou qui est lui aussi en Afrique du Sud à Baroka. Voilà pour un petit peu les gars qu'on va suivre, c'est des attaquants. Parce que pour le reste, on pourrait vous parler des autres, les Banda, les Monet, tout ça, mais en fait, ça ne signifie rien. Ils ne parlent pas au public africain pour l'instant. Donc, on va attendre peut-être justement un grand coup. Peut-être qu'ils sont en capacité de venir embêter quelqu'un. Ils seront là, ils seront les empêcheurs peut-être de tourner en rond pour les favoris du groupe. Mais honnêtement, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Après, vous allez me dire, ouais, mais souviens-toi, à l'époque, l'autre Malawi, celui des années 2010 et quelques, avait notamment avait tapé l'équipe d'Algérie mondialiste. C'était en Angola. Ça avait été la première grande surprise de cette CAN en 2010. Mais c'était une autre génération du Malawi, avec justement quelques joueurs
un peu plus connus.
De concert, Hugo Moissonnier et Franck Simon, pour terminer cet épisode, on va se prêter au petit jeu des pronostics, même si j'ai l'impression que c'est assez limpide. Hein. Vous allez sûrement être d'accord, Patrick Julliard, Hugo Moissonnier. Dans l'ordre Sénégal, Guinée, Zimbabwe, Malawi, est-ce que l'un de vous voit quelque chose d'autre dans
ça paraît assez limpide, trop limpide pour être crédible ou plausible.
Allez, peut-être une petite surprise, le Zimbabwe qui, en battant la Guinée, pourrait lui passer devant. Mais à part ça, non, ça peut très bien être ce que vous avez dit. Mais il y a une petite incertitude sur la deuxième place pour moi.
Et ben voilà, c'était limpide pour terminer cet épisode, le deuxième de Podcan. Vous pouvez retrouver tous les autres numéros de notre podcast sur notre site internet rfi.fr, évidemment sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, sur Facebook et sur toutes les applications de podcast. Voilà, Podcan, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi aller noter l'épisode. S'il vous a plu, notez le 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous, on se retrouve pour les prochains numéros. À bientôt sur RFI.